Rencontre avec. Le mot rencontre se définit curieusement par rencontrer quelqu'un ou quelque chose de manière fortuite ou non sur son chemin. Comme si le mot rencontre se définissait par rencontre.
Rencontre avec le retour des disparus. Le retour des disparus est un sujet récurrent, aussi bien dans la fiction que dans la vie. En effet, la disparition fait partie de la vie. On pourrait aussi l'appeler la mort, mais je préfère parler de disparition parce que c'est un événement moins définitif qui ne contient pas forcément la mort. Que signifie exactement la disparition ? Selon le dictionnaire historique de la langue française, le nom féminin « disparition » est un dérivé du verbe « disparaître », formé avec le préfixe « dis » qui signifie en sens opposé « le contraire » et du verbe « paraître » qui signifie « se montrer, être présent ». Le sens premier de « disparaître » est « cesser d'être visible », puis « devient cesser d'être présent, et par euphémisme, cesser d'exister. Ainsi, les disparus ont cessé d'être visibles, présents, et il arrive qu'ils cessent d'exister pour les autres. La disparition est donc une affaire d'altérité. Un être humain n'est plus visible pour le reste des êtres humains. Certains de ces êtres humains décident d'attendre le retour du disparu, puisqu'il peut réapparaître, et d'autres choisissent que le disparu a cessé d'exister. Il arrive pourtant que le ou la disparue, ce n'est pas une affaire de genre, revienne. Et, dans la littérature comme dans la vie, qu'on attende le disparu ou qu'on ne l'attende pas, le retour dérange le nouvel ordre du monde qui a continué en son absence. Ainsi, le retour exprime d'abord le fait de repartir pour l'endroit d'où l'on vient et, en philosophie, le recommencement, la répétition, la reprise. En revenant sur l'Odyssée d'Homère, récit fondateur qui contient tous les récits, je vais m'arrêter sur le retour d'Ulysse, le disparu qui veut retrouver toute sa place, son royaume, son fils et sa femme. Odyssée veut dire histoire d'Ulysse. L'histoire d'un homme qui part en mer pour détruire la ville de Troie et reprendre Hélène. 10 ans plus tard, il fait le chemin dans l'autre sens. Pendant encore 10 ans, Ulysse revient, c'est-à-dire que la légende commence, et affronte tous les monstres qu'il croise en mer et sur terre et dans la tête des hommes. Pendant la disparition d'Ulysse à Ithaque, il y a ceux qui le pleurent et l'attendent, représentés par Pénélope, et ceux qui veulent prendre sa place, selon le dicton « qui va à la chasse perd sa place », nommés les prétendants. Pendant près de 20 ans, Pénélope les repousse habilement, en leur promettant de choisir l'un d'entre eux quand elle aura achevé de tisser le linceul de son beau-père Laërte. Rusée, elle défait la nuit ce qu'elle a tissé le jour. Ce stratagème est dénoncé par une de ses servantes. Elle est sur le point de devoir choisir l'un d'eux lorsque Ulysse revient. Lecture d'extrait de l'Odyssée d'Homère. Le retour d'Ulysse. Dans la demeure obscure, tous gardaient le silence. Ils étaient sous le charme. Mais Alcinous prit la parole, promit à nouveau le retour à Ulysse et demanda au Seigneur d'apporter encore des cadeaux pour celui qui avait si bien parlé. Chacun obéit et l'on alla se coucher. Le lendemain, à la tombée de la nuit, Ulysse s'embarqua. Il s'endormit aussitôt, tandis que le navire, rapide comme l'épervier, fendait les flots innombrables. quand la plus brillante des étoiles se leva, annonçant l'aube aux doigts roses, les marins déposèrent Ulysse endormi sur le sable d'Ithaque, dans un lieu retiré. Ils entreposèrent à ses côtés tous les dons des Phéaciens et reprirent sans tarder la mer. Alors qu'ils abordaient leur terre, Poséidon, dans sa fureur, changea leur navire en rocher et couvrit la cité d'Alkinos d'une montagne. Mais Ulysse s'éveillait. Il ne reconnut pas sa terre tout d'abord, et il fallut qu'Athéna dessille ses yeux. Quelle ne fut pas sa joie alors ! Le héros embrassa la terre de ses aïeux. La déesse l'aida à cacher les dons des Phéaciens. Elle l'informa de l'état de son royaume et le pria de songer à se venger des prétendants qui, installés depuis 3 ans dans son palais, dévoraient ses richesses, harcelaient Pénélope. Mais il fallait d'abord se rendre chez Eumée, le porcher resté fidèle, et y attendre Télémaque qu'elle lui enverrait. Ayant parlé, elle transforma le héros en vieillard misérable, sale et vêtu de haillons, afin qu'il ne fût pas reconnu avant l'heure de la vengeance. Elle fit tomber ses cheveux blonds, flétrit sa peau, ternit ses yeux si beaux autrefois. Elle lui donna un bâton et une besace toute trouée. C'est ainsi qu'Ulysse gagna la cabane du porcher. Le vieux serviteur, sans le reconnaître, lui raconta ses malheurs. Son maître était parti depuis 20 ans déjà, pour 3, et l'on ne savait rien de son retour. Il se plaignit des prétendants auxquels il lui fallait livrer chaque jour un verra bien gras pour leur festin, sans compter les bœufs, les béliers, le vin que ces impies réclamaient sans cesse. La colère grondait dans le cœur d'Ulysse. Il couvait la mort de ses seigneurs insolents. Mais il ne dit rien. Eumée lui offrit le repas, et quand la nuit tomba, il prêta à celui qu'il prenait pour un mendiant son propre manteau afin qu'il n'eût pas froid. Le lendemain, à l'aube, Télémaque débarqua en Ithaque. C'est Athéna qui l'avait renvoyé de Sparte, où il était chez le roi Ménélas. Le jeune prince se rendit chez Eumée. Le vieillard l'accueillit tendrement comme le père accueille son enfant qui revient d'une terre étrangère après 10 ans d'absence. Lorsqu'ils eurent mangé, Télémaque envoya le porcher au palais pour qu'il annonce à Pénélope son retour. Alors Athéna redonna à Ulysse son apparence. Elle le couvrit de beaux vêtements, le grandit, le rajeunit. Ses joues se regonflèrent, sa barbe redevint noire. Le prince crut d'abord à un dieu, mais son père le détrompa, se nomma, se fit reconnaître. Télémaque l'embrassa, pleura, le désir des larmes montait en eux, il gémissait, s'étreignait, et la nuit les aurait surpris à pleurer encore s'il n'avait songé à préparer le massacre des prétendants. Voici ce qu'ils décidèrent. Télémaque le premier retournerait au palais. Ulysse, sous son apparence de mendiant, s'y ferait conduire par Eumée. Les prétendants ne manqueraient pas de l'insulter. Il ne faudrait rien dire, tout supporter en silence, jusqu'à l'heure du carnage. Personne ne devait apprendre le retour du maître. Enfin, il faudrait, au moment choisi, retirer toutes les armes accrochées au mur de la grande salle et les mettre au trésor en ne laissant de côté que 2 épées, 2 lances et 2 boucliers pour eux-mêmes. Comme Eumée revenait, Athéna redonna à Ulysse son aspect de vagabond. Les 3 hommes mangèrent et se couchèrent. Le lendemain, Télémaque se rendit au palais. Puis ce fut le tour d'Ulysse et du divin porcher. En chemin, le roi subit les insultes et les coups du chevrier Mélanthios. Il hésita dans son cœur. Allait-il l'abattre d'un coup de son bâton ? Mais il contint sa colère. Il laissa dire et faire sans bouger. Comme ils arrivaient devant la demeure royale, un vieux chien couvert de tiques, abandonné sur le fumier, dressa la tête et les oreilles. C'était Argos, le chien que l'infortuné Ulysse avait nourri autrefois et dont personne ne s'occupait plus. Il avait reconnu son maître, remuait la queue, mais ne pouvait plus bouger. Ulysse, en le voyant, essuya une larme. Hélas, la noire mort avait déjà saisi Argos. Ulysse rencontre alors Euryclée, sa vieille servante. Celle-ci lui lave les pieds et le reconnaît. Elle le reconnaît à sa cicatrice causée par la blessure d'un sanglier. Vient enfin l'épreuve de l'arc. mais donnez-moi cet arc poli que je l'éprouve, que je vois si j'ai gardé ma force d'autrefois ou si ma vie d'errance et la misère me l'ont ôté. » Il dit, et la colère les gagna. Il redoutait qu'il pût tendre l'arc. Antinous lui répondit violemment. « Misérable étranger, as-tu perdu la tête ? Le vain doute trouble l'esprit si tu tends cet arc. Je te prédis un affreux malheur. Tu ne m'en diras plus ici. Nous t'enverrons sur un noir vaisseau chez le roi Echetos, le plus cruel de tous les hommes. Allons, contente-toi de boire en silence et n'essaie pas de lutter contre plus jeune que toi. » Mais la sage Pénélope intervint. « Antinous, il n'est ni bon ni juste d'outrager les hôtes de Télémaque. Crois-tu que si cet étranger tendait le grand arc d'Ulysse, il m'emmènerait chez lui et m'épouserait ? Il n'y songe pas lui-même. » Eurymaque alors lui répondit. « Fille d'Icare, sage Pénélope, nous ne croyons pas que cet homme puisse t'épouser, mais nous redoutons l'opinion des hommes et des femmes. Ce sont, dirait-il, les pires des mortels. Ils n'ont pu tendre l'arc de l'homme irréprochable dont ils courtisaient la femme, alors qu'un mendiant, un vagabond de passage l'a tendu facilement et a traversé le fer d'une seule flèche. » La sage Pénélope lui répondit. « Eurymaque, cet étranger est grand et fort. Il se flatte d'avoir un père de noble race. Donnez-lui l'arc d'Ulysse pour voir. S'il parvient à le tendre, si Apollon lui accorde cette gloire, je lui offrirai un manteau, une tunique, un épieu pour se défendre des chiens et des hommes, une épée aiguë, des sandales aussi, et je le ferai conduire où il voudra. » Alors Télémaque lui dit, « Ma mère, nul ne peut m'empêcher de donner ou de refuser l'arc à qui bon me semblera. Mais rentre dans ta chambre, retourne à tes travaux, ordonne à tes servantes de se mettre au travail. Le reste est affaire d'homme, et d'abord la mienne, car c'est moi qui commande ici. » Pénélope, surprise, rentra dans sa chambre. Elle pensait aux sages paroles de son fils. Puis elle pleura son cher époux, son Ulysse, jusqu'à ce qu'Athéna, aux yeux brillants, lui ferma les paupières. Cependant, le divin Porcher apportait l'arc recourbé. Il traversa la salle et le remit aux mains du sage Ulysse. Puis il appela la nourrice Euryclée. Télémaque t'ordonne, sage Euryclée, de fermer les portes de la salle. Si les femmes entendent des plaintes, des cris, que pas une ne sorte, qu'elles restent à leurs travaux. » Il dit, et la nourrice ferma les portes de la salle. Philétios bondit dehors et ferma les portes de la cour. Il rentra, s'assit sur le siège qu'il avait quitté et regarda Ulysse. Il retournait l'arc en tous sens, le tâtait ici et là pour voir si les vers n'avaient pas rongé la corne en son absence. Les prétendants se disaient les uns aux autres. « Cet homme doit être un amateur d'arc, ou il en a de pareil chez lui. Peut-être veut-il en construire un, vois comme il le retourne, entre ses mains. » Le subtil Ulysse, quand il eut bien tâté le grand arc, le tendit sans mal comme un joueur de cithare tend une corde neuve sur la clé et fixe à chaque bout le boyau tordu. Ainsi Ulysse tendit l'arc. De sa main droite, il fit jouer la corde. Elle résonna comme le cri d'une hirondelle. Amère douleur pour les prétendants, ils changèrent de couleur. Zeus tonna fortement. L'infortuné Ulysse se réjouit de ce signe favorable. Il saisit la flèche vive qui était posée sur la table, hors du carquois où toutes les autres flèches étaient restées. Puis, l'ajustant à l'arc, il tira la corde et l'encoche sans quitter son siège. Il lança la flèche visant droit. D'un trou à l'autre, le traître traversa toutes les haches. Alors il dit à Télémaque. « Télémaque, l'étranger assis dans ta maison ne te fait pas honte. Je n'ai pas manqué le but, ma force est intacte. C'est l'heure de préparer le repas pendant qu'il fait encore jour. Puis viendront les plaisirs du chant et de la cithare, ces ornements de tout festin. » Il dit et fit un signe des sourcils. Télémaque prit son épée aiguë, attrapa sa lance et, armé du bronze éclatant, il se plaça près d'Ulysse. Le massacre des prétendants. Alors, le subtil Ulysse rejeta ses haillons, bondit sur le seuil, son arc et son carquois à la main. Il répandit les flèches vives à ses pieds et dit « L'épreuve est finie maintenant, je vais viser un autre but. Qu'Apollon m'accorde la gloire de l'atteindre. » Il dit et décocha sur Antinos une flèche amère. Celui-ci allait soulever une belle coupe d'or à deux anses. Il l'avait en main, prêt à la vider. Il ne songeait pas dans son cœur à la mort. Mais Ulysse le frappa de sa flèche à la gorge, la pointe traversa le cou délicat, l'homme tomba à la renverse, lâchant la coupe, un flot de sang jaillit de ses narines. D'un coup de pied, il renversa la table, les mains roulèrent à terre, les prétendants frémirent en le voyant tomber. Il se levait, courait de tous côtés, cherchait en vain bouclier et lance sur les bons murs. Alors ils crièrent à Ulysse ces mots pleins de colère. « Étranger, tu vises les hommes désormais, ce sera ta dernière épreuve, la mort est sur toi. » Il croyait qu'il avait tué sans le vouloir ces gamins qui ne voyaient pas venir l'heure du trépas. Ulysse tue un à un tous les prétendants. C'est alors que parut Athéna, agitant l'égide meurtrière. Les prétendants épouvantés couraient en tous sens dans la salle comme un troupeau de bœufs que harcèle au printemps un temps agile. Ulysse et les siens se ruaient sur eux, les frappaient de partout. Une plainte horrible s'élevait des crânes fracassés, le sol ruisselait de sang. Mais la haie de Phémios évita la noire mort. C'est de force qu'il avait dû chanter pour les prétendants. Il déposa à terre sa cithare creuse et, s'élançant vers Ulysse, il lui embrassa les genoux. « Ulysse, écoute-moi. Prends pitié de moi. Tu regretterais plus tard d'avoir tué un Aède, chanteur des dieux et des hommes. Je me suis instruit seul. C'est un dieu qui m'inspire tous mes chants. Je te chanterai désormais comme un dieu. Ne me tranche pas la gorge. Télémaque te le dira. C'est de force que les prétendants m'ont amené ici. » Il dit, et le puissant Télémaque l'entendit. « Arrête, ne frappe pas un innocent. Épargnons aussi le héros Médon. Il a toujours pris soin de moi lorsque j'étais enfant. » Il dit, et le sage Médon l'entendit. Épouvanté et fuyant la noire mort, il s'était caché sous son siège recouvert d'une peau de bœuf. Vite, il se releva et s'élançant vers Télémaque, qui lui embrassa les genoux. Mais le subtil Ulysse lui dit en souriant « N'aie pas peur, il t'a sauvé. Sache en ton cœur, et redis-le aux autres, que le bien vaut mieux que le mal. Maintenant, sortez tous deux, dans la cour, loin du carnage, tandis qu'ici j'achèverai mon ouvrage. » Il dit, et tous deux sortirent. Ulysse parcourait la salle pour voir si quelques prétendants avaient pu éviter la noire mort. Mais il les vit tous, étendus dans le sang et la poussière. Alors il dit à Télémaque, « Télémaque, vite, appelle la nourrice, Euryclée, que je lui dise ce que je médite. » Il dit, et Télémaque obéit à son cher père. Euryclée trouva Ulysse au milieu des cadavres, tout souillé de sang et de poussière. On aurait dit un lion qui vient de dévorer un bœuf. Son poitrail, ses mâchoires ensanglantées font frémir d'épouvante. Ainsi Ulysse avait les pieds et les mains souillés. Quand elle vit les corps, les flots de sang, Euryclée voulut hurler sa joie. Il y a donc deux réactions à l'absence d'Ulysse. L'attente interminable de l'inconsolable Pénélope, qui va à la chasse perd sa place, prendre la place d'Ulysse. Ulysse revient sous la forme d'un étranger à Ithaque. Ni Pénélope ni les prétendants ne reconnaissent Ulysse. L'une accueille l'étranger, les autres le méprisent, et même lorsqu'il est le seul à réussir à tendre son arc, il le disqualifie en continuant à le nommer étranger. Ulysse est déguisé en étranger afin de se venger et de reprendre totalement sa place. Son déguisement lui permet de ne pas être reconnu et que Pénélope et les prétendants parlent de lui comme s'il n'était pas là. Il s'assure ainsi de la fidélité de Pénélope et de la trahison des prétendants. Cela renforce son désir de vengeance. Le massacre des prétendants est une boucherie. On aurait dit un lion qui vient de dévorer un bœuf. Son poitrail et ses mâchoires ensanglantées font frémir d'épouvante. Ainsi, Ulysse avait les pieds et les mains souillés. On peut dire que l'épreuve de l'arc n'a pas suffi et qu'il a fallu la mise à mort des prétendants qui ne le reconnaissent qu'une fois mort pour reprendre sa place. Pour reprendre sa place auprès de Pénélope, il doit décrire la confection du lit conjugal. Ainsi, pour revenir et rester à Ithaque, il élimine tous les prétendants et doit aussi donner des preuves à Pénélope pour reprendre sa place dans le lit conjugal. Pour retrouver sa place, le disparu qui est revenu d'un long voyage éprouvant, doit-il éliminer tous ceux qui ont eu intérêt à sa disparition et ont pris sa place ? Si l'on considère l'histoire du comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas qui arrête sa vengeance et disparaît à nouveau, si l'on considère aussi celle du colonel Chabert de Balzac qui, après avoir tenté de retrouver son identité, y renonce et se retrouve à l'hospice, où il répond à son nom « Pas Chabert, pas Chabert ». « Je me nomme Hyacinthe, » répondit le vieillard. « Je ne suis plus un homme, je suis le numéro 164, septième salle. » ajouta-t-il en regardant Derville avec une anxiété peureuse, avec une crainte de vieillard et d'enfant. Ce court roman, saisissant, se termine quasiment sur ces mots de maître Derville. Ce maître qu'il a pourtant trahi. Je ne puis vous dire tout ce que j'ai vu, car j'ai vu des crimes contre lesquels la justice est impuissante. Enfin, toutes les horreurs que les romanciers croient inventer sont toujours au-dessous de la vérité. C'était ma rencontre avec le retour d'Ulysse.